Pour une deuxième fois en 5 ans, notre collègue Denis Martin Chabot remporte un prix du roman gay. Bonjour, Denis Martin.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va, bravo, bravo. Le prix a été remis au début du mois de novembre. D'abord, Denis Martin, qui a créé le prix du roman gay? Qu'est-ce qui récompense exactement, même si le nom du prix nous en dit un petit peu, là?
Oui, alors c'est organisé par des journalistes, des éditeurs, c'est organisé par des gens qui font de la critique littéraire en France, mais qui sont tous autour de cette thématique de la littérature LGBT. Et donc, ils ont créé, écoute, je pense que ça doit faire à peu près une dizaine d'années, le prix du roman gay, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Tu sais, c'est un peu bizarre, parce que moi, d'une part, j'aime pas beaucoup qu'on dise que mes romans sont des romans gays, je trouve ça un peu réducteur, mais en même temps, notre littérature est tellement inconnue, passe tellement sous le radar, que de souligner un titre ou un autre annuellement, ben ça aide à nous faire connaître, à faire connaître nos titres. Alors donc, c'est les éditions du Frigo, maison d'édition qui fait beaucoup de rééditions de livres français qui ont été perdus un peu dans les méandres des publications, puis qu'eux remettent donc à l'avant-plan. Et c'est aussi, donc ce prix fait aussi partie là, de leur mission de faire connaître la littérature LGBT.
Et Denis Martin, en 2017, vous aviez reçu le prix du roman gay, cette fois catégorie honneur pour rue Sainte-Catherine-Est, métro Baudry et Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais. Tous les titres, ces deux titres-là avaient été publiés aux éditions de la semaine. Et oui. En 2022, un autre prix, cette fois dans la catégorie traduction pour Deuil et Célébration de K. David Brody, qui est publié aux éditions Crescendo. Alors, comment c'est arrivé cette aventure-là? Qu'est-ce qui vous a conduit à en faire la traduction?
En fait, c'est vraiment drôle. J'étais à une réception. Lors, je pense que c'était en 2017, 2017-2018. C'était le consulat juif qui nous, d'Israël, en fait, excuse-moi, qui nous recevait pour la fierté. Et puis, je suis allé et je suis tombé nez à nez avec David. Et puis, David parle bien français et tout, mais savait que j'avais publié, puis il me dit « j'aimerais bien que mon livre soit traduit ». Alors, il m'en refile une copie que j'ai dévorée.
Ah,
j'ai
oui?
adoré ce livre, ça m'a vraiment touché. Pourtant, on parle ici d'une situation qui date des pogroms, des shtetls, quand les Juifs étaient isolés du reste du monde, en Pologne ou en Allemagne. On parle en fait avant la Grande Guerre, évidemment. Et donc, c'est l'histoire de Yankel, qui est un jeune garçon qui étudie à l'école juive et tout va bien, puis il se rend compte de plus en plus qu'il est attiré par les garçons. Il finit par avoir une aventure et c'est découvert. Il est donc ostracisé, il est en exil. Et ça raconte un peu cette vie-là. C'est triste et en même temps, c'est beau parce que David a trouvé le tour de faire en sorte que c'était comme si c'était l'ancêtre de l'auteur ou du narrateur. Et à tout bout de champ, il y a un retour dans le présent et on compare comment ça se passe dans le temps et comment ça se passe maintenant. Très, très, très beau titre. C'est sûr que ça entre un peu dans la catégorie de ces romans, pendant longtemps, tout ce qui était écrit sur nos communautés, en fait, surtout les romans qui parlaient d'homosexualité, il y avait toujours, ça se terminait mal, c'était toujours difficile, c'est toujours d'une grande tristesse, très peu de bonheur. On est un peu dans cette thématique-là, mais je trouve qu'elle va au-delà de ça aussi, parce qu'il y a quand même, je pense que le fait qu'il fait une comparaison avec maintenant, que les choses vont mieux et tout ça, que ça nous aide un peu à avoir un... comment je pourrais dire, une lueur d'espoir. Parce qu'il faut dire que dans les romans, du temps, ça se terminait mal. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, même les films, les personnes gays étaient toutes des personnes tristes, étaient toutes des personnes qui vivaient très mal leur vie.
C'était noir foncé, là.
Ah, mon Dieu, oui.
Ouais.
Alors, il faut sortir un peu de tout ça. Mais cela dit, c'est un très beau livre. Et moi, j'ai appris tellement de choses sur la culture des personnes juives. J'ai appris beaucoup de choses sur la religion, beaucoup de mots, parce que il y a beaucoup de mots, non seulement hébreux, mais yiddish. Et comment on les écrit et comment on les explique en français. Alors ça, c'était tout un défi.
J'imagine. Est-ce que c'était en plus votre première traduction, Denis Martin?
Non. J'en ai fait une autre. Oui, j'en ai fait une autre qui était inspirée là, de... Ah, c'est fou, la mémoire me lâche. Comme je suis chez moi, je vais pouvoir prendre le livre en main puis vous le dire.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est drôle quand on fait ça. Dans ces liaisons, en fait, c'était dangerous@liaison.com.
Ah, alors, pas les liaisons dangereuses, là.
Oui, mais ça se passe à l'ère du 2.0, évidemment. Ouais. C'est un livre qui avait été écrit par Don Bast, un Canadien-anglais, que j'avais traduit il y a plusieurs années. Je crois que c'était en 2014 même. Je crois que c'était plutôt que ça, 2014. Mais ça pour dire que David, ce qui est très intéressant, c'est un homme quand même qui a maintenant 80 ans et qui était si intéressé à voir son livre publié en français. David est originaire de Londres. Il a vécu une grande partie de sa vie donc au Royaume-Uni, mais il est venu vivre au Canada par la suite. Il a travaillé à Radio-Canada, CBC. Mm-hmm. Et évidemment, il a appris français, qu'il parle très bien. Et là, maintenant, il ne nous entendra pas, mais je vais y envoyer le lien vers l'émission après cette diffusion. Il vit maintenant, il est retourné vivre en Israël, dans sa famille là-bas. Et parce qu'il dit qu'on s'occupe mieux des personnes âgées là-bas qu'ici.
Bon, on n'a pas trop de misère à le croire, mais non, je ne devrais pas dire ça. Voilà. Denis Martin, pourquoi vous pensez que vous avez été choisi comme lauréat? C'est quoi un bon traducteur, une bonne traduction?
Je ne peux pas répondre pour le jury, là, parce que je ne fais pas une réponse plate de politicien, mais moi, par contre, je peux dire ce que je crois qui fait une bonne traduction, c'est que je n'ai pas traduit le livre, je l'ai compris et je l'ai interprété pour que les gens qui ne parlent pas l'anglais, qui ne lisent pas l'anglais puis, ou qui carrément préfèrent lire en français, puissent comprendre le mouvement français, puissent s'identifier au personnage, puissent s'identifier à l'histoire, parce que c'est quand même très loin de nous, c'est loin au niveau historique, c'est loin au niveau culturel. Alors, c'était beaucoup plus ça qui m'intéressait, de m'assurer que l'histoire, que je respecte l'histoire, mais que je m'assure que tout le monde puisse comprendre, ou la majorité des gens qui lisent le livre vont comprendre ce qui se passe.
Est-ce que...
Alors, j'ai mis un peu du mien là-dedans, oui.
Oui, j'en doute pas du tout. Est-ce que... Mais il faut quand même respecter vraiment l'esprit de l'histoire.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Puis parfois, et comme David lisait très bien le français, parfois il me posait des questions et ça me remettait en question. Ah, j'ai peut-être mal interprété ça ou mal vu ça. Parce que je pense que, oui, le terme traduction a plusieurs connotations. Moi, dans mon cas, je trouve que c'est vraiment une question, c'est une adaptation et c'est aussi une interprétation qu'on doit faire. Alors, il faut s'assurer qu'on respecte à la lettre l'histoire, ça c'est clair, qu'on respecte à la lettre les émotions, mais qu'on les décrit d'une façon que les gens vont... une façon qui va aider les gens à s'identifier à ce qui se passe.
Et vous disiez que David Brody... Pourquoi le K en premier, K point, David Brody?
Je ne sais pas trop. Je crois que c'est... il a un premier prénom, il ne me l'a jamais dit. Alors, bon. Il préfère...
Kevin? Ouais.
J'imagine que c'est un peu comme Denis Martin Chabot. Moi, j'ai ajouté mon deuxième prénom parce qu'il y avait tellement de Denis Chabot qui se promenaient. Puis je me disais, bon, ben, si je veux me distinguer, je vais mettre ce nom-là, c'est tout.
Alors, bon,
c'est
d'accord.
C'est arrivé à l'âge de 18 ans, j'ai décidé que j'ajoutais le Martin à mon nom, oui.
Bon, alors c'est peut-être la même chose pour David Brody. De toute façon, vous allez lui envoyer cette chronique, il va certainement vous répondre. Mais est-ce qu'il l'a lu, parce que vous disiez qu'il parlait bien le français, est-ce qu'il l'a lu en français, son roman
oui.
Deuil et célébration?
Oui, il l'a lu plusieurs fois, parce que je lui retournais à chaque fois je faisais un chapitre, je lui retournais le chapitre pour voir si ça respectait. Évidemment, David admet que c'est pas sa langue première, et puis là, il a eu parfois, il me posait des questions. Non, David, c'est vraiment comme ça que ça s'écrit en français.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est correct, là. Mais il a lu son livre, et moi, je me rappelle lorsqu'il a on a reçu les exemplaires du livre, parce qu'il a été publié en janvier 2022. Lorsqu'il a reçu ces exemplaires de livre, il était ému, comme moi d'ailleurs, parce que c'était la
première fois que
j'écrivais quelque chose comme ça, ouais. Et c'est toujours, de toute façon, je pense que c'est mon 18e livre que j'écris, et je pense que j'ai toujours pas changé. Je reçois la boîte avec les exemplaires qui me sont destinés, les exemplaires de l'auteur, et à chaque fois, je suis ému.
Ah ouais, même si c'est pas un roman que... Même si c'est pas un roman que... Ben, vous l'avez écrit, mais vous l'avez traduit d'abord et avant tout.
Oui, oui.
C'est la même expérience? C'est la même expérience?
Oui, tout à fait. le travail est tellement... Et de la même façon, c'est toujours... je le crée pas, mais je crée autour... Je crée à partir de la création, en fait, de quelqu'un d'autre. Et,
ça demeure de la création.
Tout à fait. Et je pense que comme tout artiste, quand quelque chose comme ça, quand je vois la première fois mon livre, la couverture d'un livre, oui, ça, je suis toujours ému à chaque fois.
Et est-ce que vous l'avez vu, Denis Martin, de Célébration, dans certaines librairies ou à la bibliothèque? Est-ce qu'il est facilement trouvable?
Je vois partout en ligne. Maintenant, j'avoue, là, je vais avouer quelque chose d'absolument très grave. Je commande la plupart de mes livres en ligne, mais auprès de libraires indépendants, promis.
Et il n'y a rien de grave là-dedans?
Oui, je dois dire que depuis la pandémie, j'ai comme développé cette habitude d'acheter mes livres en ligne. Et plus souvent qu'autrement, moi, je les achète en version électronique maintenant.
D'accord. Mais vous encouragez quand même les libraires indépendants?
Oui. Même quand j'achète électronique, il y a toujours la redevance va au libraire, un libraire indépendant, tout à fait.
Et est-ce que vous avez reçu le prix Roman Gay chez vous, là? Ça ressemble à quoi, un prix Roman Gay?
Ah, ce n'est qu'un courriel dans lequel on vous annonce que vous avez reçu le prix. La remise de prix, moi, j'avais été avisé un mois d'avance, mais la remise de prix était le 5 novembre. Même un mois d'avis, les billets d'avion pour la France sont beaucoup trop dispendieux. Puis évidemment, comme c'est une petite organisation, ils ne pouvaient pas nous financer pour être là. Et donc, je n'étais pas présent. C'est la deuxième fois que je gagne ce prix et je ne suis pas présent à la remise de prix. Mais c'est vraiment juste un petit papier qu'on vous remet. Moi, je l'ai eu par courriel, mais c'est pas... Et en fait, l'idée, c'est vraiment la reconnaissance qui est intéressante. Et puis, je dois dire que mes deux premiers romans qui ont reçu le prix Hommage, c'est en fait très drôle. Après le prix, ça s'est vendu en Europe. C'est surtout que ça fonctionne. Oui, je pense que le prix est plus connu là-bas et ça s'est vendu en Europe. Et puis, je dois dire que moi, que depuis la pandémie, c'était très, très drôle. Mes livres se sont vendus plus pendant la pandémie lorsque les gens devaient rester chez eux. Et j'ai vu mes rapports de vente. Puis je disais, mais voyons donc, en 2020, des livres publiés en 2016 et 2017 ont connu une recrudescence. C'est quand même drôle.
Mais c'est une bonne nouvelle. C'est vrai les gens se sont mis à lire encore plus parce qu'ils avaient plus de temps. Puis c'était entre ça puis aller voir un spectacle, mais on ne pouvait pas aller ni au cinéma ni au théâtre. Alors,
à un moment donné, les spectacles en ligne, là, ça commence à être un peu long et un peu ardu. Oui,
oui, c'est pas la même chose. C'est de l'art vivant, mais moins que si on se déplace et qu'on va... dans des salles de spectacle. Et puis, je lisais sur vous, là, Wikipédia. Je ne sais pas qui a rédigé votre page Wikipédia, mais elle est très bien faite. Je ne vous connais pas en profondeur, mais en tout cas, je trouve que c'est assez crédible, l'information qu'on donne. Et j'ai appris que vous aviez écrit beaucoup plus que je ne le pensais, beaucoup de romans, des recueils de nouvelles, des biographies, du théâtre. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours?
Oui, ben, j'ai un projet qui est retardé parce que c'est fou, les éditions Crescendo, un peu comme tout le monde, vivent une pénurie de personnel, de main-d'œuvre, mais aussi il y a eu une pénurie de papier. Je ne sais pas si c'était tout à fait vrai ou pas, mais en tout cas, on nous a fait croire qu'il y avait une pénurie de papier. Et depuis, je fais une longue réponse, mais depuis la rentrée de cette année, les presses sont de moins en moins disponibles. Moi, j'ai dû faire un collectif et puis on a dû retarder la publication parce qu'on n'arrivait pas à avoir une imprimerie pour nous parce que c'est tellement sollicité à cause de ce retour. C'est comme si on avait, tu sais, Noël trois fois en même temps cette année à la rentrée. Alors oui, j'ai un projet, un recueil de nouvelles qui devrait être publié en 2023. En principe, il est prévu au printemps. J'ai un autre projet de roman qui n'est pas terminé. Puis là, je vais dire quelque chose qui est épouvantable, mais je suis tellement fatigué ces jours-ci que j'ai plus le temps. Et puis j'ai plus d'énergie pour écrire. Alors, peut-être que je peux. J'ai trop de.
Vous êtes tellement sollicité, bon. Puis vous avez plein d'activités, vous avez tout le temps plusieurs projets.
C'est ma résolution pour 2023, c'est de dire non.
Oui, j'imagine que c'était votre résolution pour 2022 aussi.
Puis 2021, puis 2020, mais j'imagine ça. Oui. Un jour ou l'autre, je vais la prendre. Non, sérieusement, maintenant, oui, je le fais. J'ai vraiment, je le dis, là, j'en ai mis une émission de radio à Canal M, je suis capable de faire ça, ça va. Et puis j'ai quelques autres mandats, mais disons que ça s'est multiplié cette année pour toutes sortes de circonstances, et je me suis retrouvé à travailler des 60-70 heures par semaine. Et là, j'arrive au bout de mon énergie. Fait que ça, j'ai dit, bon, il faut que les choses se prennent en main.
Alors, et, du repos, faites le plein d'énergie avant de continuer dans vos projets. Mais oui, on vous écoute religieusement tous les lundis à 17h à votre émission « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Et autre sujet, j'en parlais en début d'émission, puisque c'est le 1er décembre, la Journée mondiale de lutte contre le sida. Denis-Martin Chabot, est-ce que c'est une journée importante pour vous?
Tout à fait, parce que moi, je vis avec le VIH depuis 2004, Marie-Hélène. Alors, c'est sûr que à chaque année, ça revêt d'importance, surtout depuis que j'ai fait un coming out à la presse et puis à Radio-Canada et à TVA en 2016. Mm-hmm. Ça fait quand même un petit bout où j'ai annoncé publiquement que je vivais avec le VIH. Et oui, c'est important parce que je pense qu'on a comme oublié cette première grande pandémie mondiale, première bien avant la COVID et qui est là depuis 42 ans et qu'on a, pour laquelle on n'a toujours pas trouvé de remède. On n'a toujours pas trouvé, bien qu'à mon émission lundi, on a laissé entendre qu'il y a quand même, c'est très prometteur ce qui se passe présentement. Alors, il y a des cas là, de guérison du VIH et on en a une dizaine maintenant dans le monde et on commence à comprendre comment ça se fait et tout ça. Alors, il y a de l'espoir. Mais si on veut éradiquer la transmission du VIH en 2030, comme le promet la ville de Montréal et puis qui est signataire de la déclaration de l'ONU-SIDA, ben, si on veut se rendre là, il faut arrêter de ne pas en parler. Il faut en parler, il faut mettre les choses à l'avant-plan et puis mettre autant d'efforts qu'on en a mis pour la COVID, si on en mettait autant pour le VIH, ben, peut-être qu'on arriverait peut-être une dizaine d'années, si je suis optimiste, à éradiquer tout ça.
Alors, Denis-Martin Chabot, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On sera au rendez-vous à votre émission de radio à notre antenne, Canal M, l'heure où l'arc-en-ciel se lève tous les lundis à 17h. Il y a des rediffusions également. On peut aller voir sur canalm.com. Et je vous refélicite pour ce prix du roman gay pour la meilleure traduction du livre de K. David Brody, Deuil et célébration. Merci, Denis-Martin.